intervention. Quelle échelle ? Il me semble que seul un peuple peut se dresser et dire le roi est nu, c'est nous qui produisons la valeur, c'est à nous d'en décider, d'en être les propriétaires. Bonjour Georges. Et de nous débarrasser des parasites. Bon. Donc, je ne vois pas d'autre cadre que national, parce qu'il n'y a que dans ce cadre-là. La région, c'est un hors-sol politique complet. L'Europe, c'est un hors-sol politique complet. Il n'y a pour le moment que les nations qui sont des lieux de constitution du peuple, dans les difficultés que vous signalez avec la Ve République, bien sûr. Cela dit, à partir du moment où un peuple se levera, qui pourrait être d'ailleurs en Amérique latine ou n'importe où, enfin pas forcément en Europe, à partir du moment où un peuple se levera, vous allez avoir une internationalisation immédiate de la chose, à la fois parce que le capital mondial va se précipiter sur lui, et puis parce que les autres peuples qui sont dans l'exaspération que nous connaissons vont se dire, bah, après tout, pourquoi pas nous, hein. Donc, pour moi, le cadre est forcément international, mais il va se construire dans l'affrontement entre les amis de l'internationalisation de cette révolution et les ennemis de cette internationalisation. Comme la Révolution française a été internationalisée, enfin, comme les révolutions le sont toujours d'une façon ou d'une autre. Donc poser comme un préalable au changement le fait que les conditions internationales soient réunies, pour moi, n'a aucun sens. Aucun. Elles ne seront jamais réunies. Seul un peuple en mouvement, et donc ça ne peut pas se faire par un processus électoral. C'est pour ça que l'obstacle constitutionnel n'est pas absolument dérimant. Ça ne s'est jamais fait par un processus électoral, absolument jamais. Vous pouvez avoir ensuite un processus électoral qui confirme, et même si c'est souhaitable, évidemment, qui confirme les changements opérés dans le cadre d'une révolte populaire, où vous pouvez avoir, ça c'est 45, 46 qui vient confirmer, 43, 44, d'accord, où l'inverse, c'est-à-dire un processus électoral qui n'avait pas du tout prévu cela, et qui est complètement débordé par un mouvement populaire, c'est 36. Mais de toute façon, ça ne peut être que le mouvement populaire qui pose le peuple comme candidat à la maîtrise de la valeur économique. Donc, dans un cadre national qui s'internationalise automatiquement. Qui verserait le salaire poser la marchandise comme outil de libération alors que c'est l'expression de notre exploitation. Il y a peut-être deux questions là où j'ai pas bien saisi, mais l'écho que je ferais, c'est qui verserait le salaire? Non, sûrement pas l'État. Moi, je suis pour le dépérissement de l'État, donc je vais pas chercher à inventer un État encore plus fort. Il l'est déjà largement suffisamment. La question, c'est que nous avons déjà un modèle, c'est celui de la sécurité sociale. La sécurité sociale, ce n'est pas de l'État pour gérer le salaire socialisé. Ce n'est pas du public opposé au privé, c'est du commun. Entre 47 et 60. C'est là que j'aborde, fais écho à ce que vous avez dit. Entre 47 et 60, il n'y a pas de paritarisme, justement pas. Parce que le paritarisme, ça veut dire que c'est le patron qui est au pouvoir. Entre 47 et 60, il y a ce qu'on appelle la démocratie sociale, C'est-à-dire que la sécurité sociale, qui à l'époque représente l'équivalent du budget de l'État, aujourd'hui c'est une fois et demie, mais à l'époque c'était à peu près l'équivalent du budget de l'État, l'équivalent du budget de l'État est géré par des salariés élus dans des élections quinquennales, qui sont de très grandes élections politiques, les élections à la sécurité sociale. Et les conseils d'administration des caisses, trois quarts de salariés, un quart d'employeur, donc sûrement pas le paritarisme. Les conseils d'administration des caisses, jusqu'en 1960, De Gaulle, c'est l'adversaire principal de la sécurité sociale. Il démissionne dès janvier 1946, il ne peut pas supporter la mise en place de la Sécu, donc il démissionne tout de suite. En janvier 1946, il n'y a encore rien pour la sécurité sociale. Elle va être construite sans lui et contre lui. D'accord ? Le RPR va être un adversaire acharné, le RPRF, pardon, le parti de De Gaulle, de la sécurité sociale. Et quand il revient au pouvoir, c'est un adversaire acharné de la sécurité sociale. Et donc, en 1960, d'abord, il ne fait pas les élections. Hein, les élections, c'est 50, 55, 60. Ça aurait donc dû avoir lieu en 60. Non. Il essaye de les supprimer, il n'y parvient pas. Il les repousse en 62. Et en 60, il change la donne. Les conseils d'administration, qui sont des salariés élus, donc, perdent leur compétence générale. Ils ont une compétence limitée, il y a une liste. Et c'est la direction qui a la compétence générale, c'était l'inverse. Et les directeurs ne sont plus élus. Jusqu'en 60, ce sont les conseils d'administration qui élisent les directions des caisses. C'est-à-dire que nous avons vraiment de la démocratie sociale, avec une hiérarchie élective. De Gaulle revient mettre de l'ordre capitaliste dans tout ça, bien sûr, et il supprime l'élection des directeurs. Il crée l'école des directeurs de la sécurité sociale à Saint-Étienne. Vous chercheriez enfin un cours sur la sécurité sociale. C'est intéressant. Il n'y a pas un seul cours sur la sécurité sociale à l'école des cadres de la sécurité sociale. Pas un. Vous n'avez que des cours de gestion et de management. Et de finance, de commande. Financé par appel au marché des capitaux, etc. C'est-à-dire qu'on forme des gens à l'anti-sécurité sociale pour diriger la sécurité sociale. C'est intéressant, c'est vrai. Donc, tout ça, ces salariés qui sont décisionnels en matière de sécurité sociale, c'est-à-dire l'équivalent du budget de l'État, c'est bien de la démocratie sociale. On a déjà inventé quelque chose qui ne sera pas le poids de l'État à la gestion du dispositif. On sait déjà faire autre chose. On l'a fait. Mais pour que ça reste, il faut supprimer la logique du capital. Qu'est-ce qui appelle un État fort ? C'est le capital, toujours. Donc, si nous voulons supprimer l'emprise de l'État dans nos vies, encore faut-il que nous devenions les maîtres de la valeur économique et que nous disposions de ces institutions du commun que sont, alors, à quel niveau et comment ? Bien, vous allez avoir, c'est le texte tout le PIB pour la cotisation, vous avez eu peut-être, vous avez déjà regardé, qui est à votre disposition, ici. En revanche, je n'ai pas de feutre. Pour coordonner l'activité de production, nous pouvons pour savoir qui décide de l'utilité du travail, je reviendrai à la question de la marchandise comme outil d'exploitation et de libération, parce que c'est une question très importante, et aussi sur la question du rapport salarial d'exploitation. C'est un coup de fouet qui nous oblige à bosser. Si on a un salaire à vie, est-ce qu'on va encore continuer à travailler ? Bon, je reviendrai sur ces questions-là, mais que j'ai un peu traduite. Enfin, je pense que c'était ça un peu l'intention de ceux qui les ont posées. Mais cette question de qui décide, qui est une question vraiment fondamentale, nous allons avoir un PIB dans lequel il faut que, nous l'avons vu, hein, 60% du PIB, hein, 1200, 1300 milliards aille au salaire à vie. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises. C'est-à-dire que je vais me situer là à un niveau microéconomique, la valeur ajoutée d'une entreprise. Eh bien, 60% de cette valeur ajoutée va aller à une cotisation salaire. Qui payera les salaires ? Eh bien, les caisses qui vont récupérer ces 1300 milliards, ces 1200 milliards, nous produisons 2000 milliards actuellement. Elles vont les distribuer selon quoi ? Selon les résultats de jurys de qualification. Vous allez avoir des jurys de qualification. Le niveau 1 de qualification est attribué automatiquement à 18 ans, à l'âge de la majorité. 18 ans si c'est 18 ans, 16 ans si c'est 16 ans. Enfin. Non, le niveau 1 de qualification, c'est-à-dire le premier niveau de salaire, puisque la qualification, c'est la contribution à la production de valeur, c'est le salaire. Donc le premier niveau de salaire, 1500 euros net par exemple, net d'impôt, hein, puisque tout va à la cotisation, il n'y a pas besoin d'impôt. Hein. Donc net de TVA. 1500 euros, c'est l'équivalent de 1800 euros aujourd'hui, puisque sur 1800 euros, il y a 300 euros de TVA et d'IRPP à peu près. Donc nous démarrons tous à 1500 euros net de TVA et d'IRPP, donc l'équivalent de 1800 euros actuels. Nous avons quatre niveaux de qualification, donc un salaire qui va s'inscrire entre 1500 et 6000 euros. Aucun salaire au-dessus de 6 000 euros, c'est-à-dire 8 500 euros actuels. Hein, puisque sur un salaire de 8 500 euros, il y a 2 500 euros de TVA et de d'IRPP à peu près. Donc, en inscrivant les salaires dans une fourchette 1500 6 000, c'est comme si nous étions, dans la situation actuelle, dans une fourchette 8 500. Donc, nous sommes à un dispositif dans lequel le droit à qualification, qui devient un droit politique, hein, qui attribue un salaire irrévocable, un salaire qui ne peut pas être supprimé. C'est un droit de la personne. Il n'y a pas de marché du travail. En même temps qu'à 18 ans, on affecte 1500 euros net d'impôts, y compris net de TVA, hein, j'insiste, à vie, hein, de manière irrévocable, en même temps, on attribue à la personne un droit à la carrière salariale, c'est-à-dire le droit de passer des épreuves de qualification pour monter en niveau de qualification et avoir, mettons, niveau 2, et là, un salaire de 2000 euros, 2500 euros, qui sont eux aussi irrévocables, c'est-à-dire que quoi que vous en fassiez, vous le conservez. C'est le droit politique du salaire, c'est ça qui est central à bien comprendre. C'est pas un droit qui dépend d'une évaluation de ce qu'on est en train de faire. L'évaluation de ce qu'on est en train de faire, c'est la source c'est la plaie de tout notre travail aujourd'hui, d'accord, cette évaluation permanente. C'est la source des faits qui sont exclusivement pervers. Donc il faut absolument supprimer l'évaluation du travail. C'est celui qui est en train d'être fait en ce moment. Tout autre chose est l'évaluation qui va avoir lieu pour changer de qualification. Bien sûr, si on veut changer de qualification, il y aura une évaluation du travail fait au cours des 5 ou 10 dernières années. C'est là que va intervenir quel métier on décide. Les jurys de qualification, ils vont peut-être accélérer la progression en qualification de gens qui sont sur des métiers insuffisamment pratiqués, pour pousser au choix de ces métiers. Mais ces jurys de qualification, ils vont être eux-mêmes sous la délibération collective des travailleurs. Pour que l'on puisse assurer, donc ça c'est 60%, pour que l'on puisse assurer un investissement supérieur à l'investissement actuel, hein, qui est de 400 milliards, hein, ce qui nous pique 700 milliards dans le PIB, ils n'en investissent que 400, hein, il y a 300 milliards de coûts du capital. Eh bien, nous allons affecter non pas 20%, mais 30% du PIB à l'investissement. Et ça peut se faire, pas nécessairement sous forme de cotisation, il peut y avoir, mettons, 15% d'autofinancement, c'est-à-dire que les entreprises gardent 15% de la valeur ajoutée pour financer l'outil de travail. Ça, c'est de l'autofinancement. Et puis, 15% de cotisation. Les 300 milliards, 15% de 2000 milliards, les 300 milliards ainsi collectés vont à des caisses d'investissement qui, à l'échelle locale, comme ça se fait déjà, il y a déjà des évaluations avec des élus, on met des syndicalistes, des élus, des représentants des employeurs, des représentants de la chambre des commerces, des représentants des banques locales, je ne sais pas quoi, et on évalue des projets d'investissement. Ben, nous allons faire pareil, sauf que ce serait une évaluation davantage démocratique, avec un droit à 18 ans, ça fait partie du droit de majorité, de participer à la délibération des caisses d'investissement, directement ou par élection de représentants, bien sûr. Donc on va avoir des caisses d'investissement. Et puis, nous sommes là à 90% du PIB, les 10% restants, c'est pour financer la gratuité. Il faut étendre la gratuité, l'étendre au logement. Le logement, c'est un scandale absolu. Supprimer le marché du logement, c'est décisif. Supprimer le marché du logement, donc faire une sécurité sociale du logement, de logement gratuit comme la santé, par un dispositif de sécurité sociale. Mais vous voyez que si nous voulons étendre la gratuité aux transports de proximité, aux premières consommations d'énergie, aux premières consommations d'eau, enfin tout ce sur quoi ce qui doit devenir gratuit, il faut que nous ayons une partie du PIB qui aille à la cotisation gratuité. Si on prend les services publics, qui sont une partie seulement de la valeur ajoutée, mettons que les services publics, ce soit ça. Le reste, c'est des entreprises marchandes. Ça, c'est du non-marchand. Supposons que le non-marchand, ça plus ça, excusez-moi, bien sûr. Le reste, c'est du marchand. Donc, supposons que le non-marchand soit financé pour ses salaires, par la cotisation salaire, pour ses investissements, par la cotisation investissement, donc il n'y a plus besoin d'impôts pour financer les salaires des agents publics. Ils sont financés par la cotisation salaire, qui concerne tout le monde. Vous voyez aussi la grande fluidité que ça permet dans les trajectoires personnelles. On passe de fonctionnaire à travailleur indépendant, à salarié membre d'un collectif, puisque on se balade avec sa qualification et son salaire. Donc, il n'y a pas besoin d'impôts. En revanche, il faut une cotisation supplémentaire. La cotisation supplémentaire pour financer ce qui, dans un service public, excède l'investissement et les salaires. Tout le fonctionnement courant. Les dépenses de fonctionnement courant dans un hôpital, l'entretien courant de l'immeuble, les dépenses de petit matériel, les besoins d'énergie, etc., etc. Si nous voulons que ce soit gratuit, l'hôpital ne peut pas être financé que pour les salaires et pour l'investissement. Il faut aussi une cotisation du financement courant. Voilà donc le PIB, mais ça répond aussi à la question de qui décide. Vous voyez que nous allons avoir des conflits permanents entre des institutions dont les intérêts sont divergents. Et c'est ce conflit qui est la base de la démocratie. Ce ne sera ni l'addition d'autogestion qui a conduit à l'échec yougoslave, parce qu'on ne fait pas société en additionnant des autogestions, ni le Gosplan qui a fait l'échec soviétique. Nous allons avoir des institutions qui sont des institutions horizontales, autonomes et indépendantes. Je pense que nous sommes un peu chez Montesquieu, on va dire. Je pense que ce qu'il a dit sur la démocratie n'est pas nul du tout. Et vous allez avoir donc des entreprises qui vont avoir un peut-être embaucher beaucoup de gens, puisqu'il ne les paye pas.
Allez, on y va.
Et des caisses de salaire qui disent, attendez, Lucas, il faut que nous, on puisse payer les salaires. Vous allez avoir un conflit. Vous allez avoir un conflit entre les entreprises qui voudront faire du nucléaire, je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de peuple vertueux, mais on peut très bien imaginer qu'une entreprise, le collectif, décide de faire une saloperie, évidemment. Sauf qu'il y aura un tiers, qui sera les caisses d'investissement, qui vont introduire une régulation, et qui, s'il y a fonctionnement démocratique, s'il y a eu un débat public, national, sur l'inutilité du nucléaire, je ne sais pas, récuseront des demandes d'investissement de ce type. Donc il y aura bien une coordination de l'activité économique par un conflit avec des tiers. Vous avez les caisses de gratuité qui vont entrer en conflit avec le reste. Nous allons être dans un dispositif d'institution égale, indépendante, représentant des intérêts différents, qui, à mon avis, sont la clé d'une construction démocratique, dès lors que le droit de citoyenneté est enrichi à la majorité de ce droit de participation aux délibérations de toutes ces instances. La marchandise comme outil d'exploitation, alors que j'en fais un outil de libération. Mais attendez, il y a marchandise et marchandise. De même que le PIB ne mesure pas que la valeur capitaliste, contrairement à ce que disent un certain nombre d'auteurs, qui supposent que le prix des marchandises, c'est la valeur des marchandises. Mais non, le prix des marchandises, c'est la valeur des marchandises plus la valeur du non-marchand. Le PIB, il exprime déjà une contestation du capitalisme, puisque ce sont des non-marchandises, des producteurs qui sont payés pour ce qu'ils sont et non pas pour la marchandise, force de travail dont ils seraient porteurs, qui produisent des non-marchandises. La production de santé, de services publics, la production des retraités, des parents, etc. Nous sommes une production anticapitaliste. Ce n'est pas des marchandises qui produisent de la marchandise.
Comment est-ce qu'on calcule alors le produit intérieur brut à partir du moment où c'est pas de marchandise? C'est une question technique, je n'y connais pas.
Oui, mais on le calcule déjà.
Oui, mais comment?
Eh bien, on additionne les salaires. La contribution de l'administration à la production, c'est l'addition des salaires. Pourquoi? Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire de ce qui est produit par le travail actif de l'année, le travail vivant de l'année. Donc, le prix des marchandises moins tout ce qui correspond à du travail passé dans des machines qui vont transférer une partie de leur valeur dans l'amortissement à la valeur nouvelle, ou qui correspond à du travail vivant déjà comptabilisé dans une autre entreprise qui est fournisseuse ou acheteuse de l'entreprise en question. Donc si on fait la somme des valeurs ajoutées, nous allons avoir du salaire et du profit, tout simplement, c'est tout. Hein. Or, dans le service public, il n'y a pas de profit, donc la valeur produite d'un service public, c'est la somme des salaires. Ce qui est tout à fait intéressant parce qu'on voit qu'on mesure la valeur par la qualification du producteur, puisque dans la fonction publique, c'est le producteur qui qualifie. Donc on ne mesure plus la valeur par le temps de production, comme dans le capitalisme, mais on la mesure par la qualification du producteur, ce qui est tout à fait intéressant comme innovation sociale. Donc, dire que la marchandise, c'est un outil d'exploitation. Oui, lorsque nous avons des biens qui sont produits par des forces de travail sur un marché du travail et qui mettent en valeur du capital par une production qui est soumise à la dictature du temps de travail. Oui, ça, ce sont des marchandises au sens capitaliste du terme. Mais tout bien qui est produit n'est pas une marchandise. Vous avez tous les biens non marchands des services publics qui entrent dans le prix des marchandises, et puis vous avez tous les biens à prix qui ne sont pas des marchandises. Pas parce qu'il y a un prix que c'est une marchandise, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui exprime l'exploitation capitaliste. Un paysan qui cultive des tomates qu'il vend dans une AMAP, il ne produit pas des marchandises, il produit des biens à prix. Mais un bien à prix, ce n'est pas une marchandise. La marchandise, vous avez raison, c'est l'expression de notre exploitation. Mais en produisant des tomates qu'il vend dans une AMAP, il n'exploite personne. Il ne produit pas une marchandise, il produit un bien à prix. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des biens à prix, parce qu'il faut qu'il y ait de la monnaie. Voilà, c'est une distinction, une discussion qu'on peut avoir, je ne vais pas l'engager tout de suite, mais elle peut venir dans la suite du débat si vous voulez. La monnaie, c'est un instrument de libération. Et il faut qu'il y ait de la monnaie dans une société. L'idéal d'une société sans monnaie, c'est une société que je vais fuir rapidement. Parce que la monnaie est l'objectif des rapports sociaux qui deviennent complètement englués s'il n'y a pas de monnaie. Imagine la domination masculine sans monnaie, elle est éternelle. C'est par la monnaie que les femmes se libèrent de la domination masculine, très partiellement, elles s'en libèrent quand même. C'est par la monnaie que les serfs se sont libérés des seigneurs. Ils ont payé l'impôt, ils ont pu payer la dîme, ils ont pu faire des ouvrages, une contribution à la nature qui les inclut dans un rapport interpersonnel. Objectiver ce rapport par des sous. C'est par la monnaie que les paysans se sont libérés de l'emprise des prêtres. Où est-ce qu'on trouve la monnaie dans les sociétés premières? Dans les temples. C'est la façon dont les paysans ne versent plus aux prêtres qui les dominent une partie de leur production sous forme de taureaux, de je ne sais pas de quoi, le tout en complètement inclus et englué dans l'idéologie religieuse, naturalisée. Ils apportent de la monnaie. Certes, cette monnaie exprime bien une violence sociale, mais elle est déjà une forme de libération par rapport au rapport de subordination des prêtres, enfin des paysans aux prêtres. Donc, moi je ne cours pas après une société sans monnaie. J'essaie de prolonger ce qu'il y a d'émancipateur dans la société actuelle en disant il faut la gratuité pour le logement, il faut la gratuité pour les transports de proximité, etc. Mais dire qu'il faut que nous nous débarrassions de la monnaie, sûrement pas.
Oui, laissez-moi comprendre, moi j'ai bien envie de vous suivre, je veux dire, mais parce que c'est vrai, on peut constater que la monnaie dans l'histoire est libératrice, mais la monnaie est aussi aidée à la constitution de l'État. La monnaie est aussi l'assise essentielle du pouvoir de l'État, quand même. La monnaie est l'assise du pouvoir des États-Unis, par exemple, au niveau international. Donc la monnaie est aussi domination. Il n'y a pas que le côté libérateur. Hein. La monnaie, c'est aussi un des outils essentiels de la domination. Donc, encore une fois, hein, je nie pas le côté... Enfin, l'histoire montre bien ce côté libérateur de la monnaie. Mais, alors, encore une fois, monnaie mise en place par qui, hein, centrée sur quoi? Je veux dire, moi, c'est ça, la question que je pose.
D'accord. Alors, donc, vous avez absolument raison. Hein. La monnaie, c'est l'évaluation de la valeur économique. Or, la valeur économique, c'est le lieu de la violence sociale. Donc la monnaie, c'est forcément une institution de la violence sociale. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est une institution qui euphémise la violence sociale de ces formes brutales qui sont l'inégalité de statut entre un seigneur et des serfs, des prêtres et des paysans, un homme libre, un esclave, etc., etc. En ce sens, elle est libératrice, mais en tant qu'élément de la violence sociale. Comment... cette violence sociale s'exprime aujourd'hui par une création monétaire qui nous endette. Ça, c'est une sacrée violence sociale. Nous ne pouvons être reconnus comme producteurs. L'évaluation de ce que nous produisons ne peut être faite que
en nous endettant auprès des actionnaires des banques. Donc, comment nous allons créer de la monnaie et qui va la créer? Vous avez des caisses d'investissement qui vont collecter 15% du PIB, par exemple. Vous aurez de l'autofinancement au niveau de 15% du PIB. On va affecter 30% du PIB à l'investissement. Supposons que ces caisses d'investissement reçoivent des projets à hauteur de 500 milliards. Tout à fait intéressant. Or, elles ne disposent que de 300 milliards de cotisations. Bien, ces caisses peuvent décider de créer 200 milliards de monnaie pour anticiper la valeur économique supplémentaire qui va être produite à partir des investissements qui vont ainsi être créés. Cette monnaie ne sera pas inflationniste puisqu'en face, il y aura la valeur économique créée dans les entreprises nouvelles avec cet outil de production nouveau. Et cette création monétaire ne sera pas du crédit, c'est un point qu'il faut bien poser. C'est-à-dire que, de même que les caisses d'investissement vont subventionner les entreprises, il n'y a pas de raison que l'on rembourse, je sais pas, les hôpitaux n'ont pas remboursé l'assurance maladie quand l'assurance maladie a financé l'investissement des CHU. De même que, je ne sais pas quoi, mais les services publics ne remboursent pas l'impôt qui les finance. Dès lors qu'il y a une appropriation collective d'une partie de la valeur, pour l'investissement, il n'y a aucune raison qu'il y ait un remboursement. Le remboursement n'existe que parce qu'il y a eu une appropriation lucrative d'une partie de la valeur. Ce qui nous pique 700 milliards pour ensuite nous en prêter 400. Et exiger d'être remboursé du prêt qu'ils ont fait sur ce qu'ils nous ont piqué. Donc, la création monétaire peut se faire dans une violence infiniment moindre dès lors qu'elle n'exige pas de remboursement. Et dans une violence moindre dès lors que les caisses d'investissement qui vont émettre la monnaie seront démocratiquement gérées, ce qui n'est pas le cas des actionnaires des banques jusqu'à nouvel ordre, qui décident s'il va y avoir ou non création monétaire. Donc, ce ne sera pas la fin de la violence, hein, parce que les sociétés existent pour autant qu'elles gèrent la violence. Mais ce sera des formes euphémisées de violence. Mais de fait, il y aura toujours violence. Je ne suis pas porteur d'un projet, dans 10 000 ans, je ne sais pas où on en sera, je ne suis pas porteur d'un projet de société sans violence. J'essaye, comme historien de la sécurité sociale, de voir comment nous pouvons émanciper la valeur économique de la violence capitaliste. Donc, émanciper la création monétaire de l'endettement vis-à-vis des actionnaires des banques. Émanciper le statut des personnes de la violence qu'est le marché du travail. Émanciper le financement de l'investissement, de la violence de la propriété lucrative et du crédit bancaire. Bon, mais ce n'est pas une suppression de la violence. Donc, bien sûr que la monnaie est une réalité contradictoire, comme la société. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire, s'il n'y avait pas de contradiction. Hein. Je respecte le calme.